J'aimerais lire avec vous, si tu veux, l'histoire du paralytique, de ses quatre amis et de Jésus. On trouve... Je peux avoir une télécommande? Merci.
Aujourd'hui...
On est déjà là, d'accord. J'avais prévu une petite animation... C'est surtout pour les enfants, mais ils sont pas là. C'est dommage, vous voulez l'avoir quand même. Allez, c'est un petit peu naïf comme présentation, mais allons-y.
Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire qui se passe dans une maison, dans un village. Jésus est invité dans cette maison. Aujourd'hui, Jésus est dans la maison. Il parle, il raconte du royaume de Dieu. Et il y a énormément de gens qui sont intéressés. Ils sont venus de tous les villages voisins. Ils sont même venus de Jérusalem, la grande ville. Et ils se pressent dans la maison. Mais la maison, elle n'est pas si grande. Alors ils essayent d'entrer. Ils se pressent à la porte, mais la maison est pleine. Alors ils sont devant la porte, sur la pointe des pieds. Ils tournent l'oreille et ils écoutent ce que Jésus veut raconter. Non loin de là, il y a quelqu'un qui n'est pas venu voir Jésus, qui n'est pas derrière la porte, qui est resté couché chez lui. Il est paresseux ? Mais non, il ne peut pas marcher. Il est paralysé depuis qu'il est tout petit. Il n'a jamais pu courir, il n'a jamais pu aller jouer aux osselets avec les autres. Il est là, dans son lit, à attendre. Il est triste, il n'a pas le moral. Et pourtant, il a des amis. On voit là juste moi qui arrive en courant et qui lui crie « Dis donc, mon Dieu, tu sais pourquoi il y a Jésus qui est tout près d'ici, dans une maison, on va aller le voir. » C'est comme ça qu'ils ont pris le paralytique, ils l'ont installé sur sa civière avec une perche et ils ont commencé à traverser le village avec lui. Je crois que Jésus va s'occuper de moi. Oh, tu sais, j'ai pas le moral. Mais oui, on est convaincus. Tu sais, Jésus, c'est quelqu'un qui s'occupe des gens de n'importe qui. Oh mince, mais il y a tellement de monde. Comment est-ce qu'on va faire pour entrer? Heureusement qu'il y a les escaliers. On fait un trou, on s'arrangera avec le propriétaire après. Alors, ils ont creusé, ils ont déplacé la terre, il y avait quelques pierres, il y avait des branchages, ils ont tout poussé. Ouais, vous croyez vraiment que vous allez me descendre là-dedans? Mais bien sûr, ne t'inquiète pas. Allez, vas-y, t'inquiète pas, nous on y croit en Jésus, on a la foi. Croyez que c'était simple de descendre d'un étage comme ça, paralysé dans une natte? Lui, il peut rien faire. Il se cramponne. Et puis, il connaît pas Jésus. Il n'en sait rien. Il ne l'a jamais vu. Qu'est-ce qu'il va dire? En attendant, le trou, il est fait. Le paralytique, il descend. Il arrive au pied de Jésus, tout inquiet, pendant que ses amis là-haut, eux, ne sont pas inquiets. Il regarde, il va regarder ce qui va se passer. Eh bien, Jésus est là et il dit au paralytique, oh, il lui dit pas marche sur tes pieds, hein, parce que Jésus il regarde dans le cœur. Et puis dans le cœur, il voit que ce pauvre homme, il est déprimé. Il a beaucoup, beaucoup de choses à se faire pardonner. Alors il le regarde puis lui dit, écoute mon ami, tout ce que tu as fait de mal, c'est pardonné, c'est oublié. Autour de Jésus, il y avait des religieux de l'époque qui, eux, sont furieux, mais furieux de chez furieux. Et qui disent, mais c'est pas possible, c'est Dieu tout seul qui pardonne les péchés, qu'est-ce que c'est que ce Jésus? Alors Jésus les regarde et dit, pour vous montrer que je peux aussi pardonner les péchés, eh bien, je dis à ce monsieur paralysé depuis qu'il est petit, lève-toi, marche. Et tout d'un coup, vous imaginez, ce paralytique qui était toujours coincé dans sa chambre, eh bien, il a sauté sur ses pieds. Oh, il est encore tout maigre, ça c'est sûr. Mais il a sauté sur ses pieds. Et il pouvait marcher. Quelle joie dans la maison! Quelle explosion! Tout le monde qui criait, tout le monde qui chantait, puis dehors qui criait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais il a guéri le paralytique!
Voilà, voilà. C'est une interprétation un petit peu naïve, peut-être. Mais je vous invite à lire ce texte qui se trouve dans les trois premiers évangiles et on le lira dans Luc chapitre 5 au verset 17. Luc 5, verset 17. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des professeurs de la loi venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem étaient assis là, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici que des hommes qui portaient un paralysé sur une civière cherchaient à le faire entrer et à le placer devant Jésus. Comme ils n'avaient pas trouvé moyen de l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et, par une ouverture, ils le descendirent sur sa civière au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit « Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. » Les spécialistes de la loi et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire « Qui est cet homme qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul ?» Jésus connaissait leurs pensées. Il prit la parole et leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile à dire? Tes péchés te sont pardonnés ou lève-toi et marche? » Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ta civière et rentre chez toi. Celui-ci se leva immédiatement en leur présence, prit la civière sur laquelle il était couché et rentra chez lui en rendant gloire à Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et célébraient la gloire de Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses extraordinaires. Les trois premiers évangiles nous racontent cette histoire avec chacun apporte une petite précision supplémentaire. Je crois que c'est Marc qui précise que les amis du paralytique étaient quatre. Et Matthieu a la phrase de la fin est un petit peu différente. Il dit que les gens qui étaient là s'étonnaient de ce que Dieu avait donné un tel pouvoir aux hommes. Voilà. Alors le texte parle. Que dit le texte? La première chose qu'il nous dit, c'est que ce n'est pas facile de rencontrer Jésus quand on est paralysé. Donc Jésus enseigne, il guérit à Nazareth et il y a une foule qui est là, et parmi cette foule, il y a des religieux qui sont là, et puis qui peuvent constater, nous avons vu dans le texte, le début du texte, qui peuvent constater que la puissance du Seigneur se manifeste par des guérisons. Parce que le paralysé, le paralytique, comme vous voulez, c'est pas le premier qui va être guéri, même si son histoire nous est racontée plus en détail. Mais il y a déjà des guérisons, et ces religieux qui sont là aurait déjà dû se dire qu'il se passait quelque chose avec cet homme Jésus, que ce n'était pas un homme comme tout le monde. Ils sont donc préparés à ce qui va suivre. Ou plutôt, ils auraient dû être préparés. Un deuxième point qu'on peut se poser, c'est la foi de qui? Jésus dit, voyant, enfin le texte nous dit, voyant leur foi, Jésus dit, tes péchés sont pardonnés au paralytique. Et voyant la foi des quatre hommes qui avaient amené à travers le toit cet homme paralysé. Qui était-ce? On ne sait pas. Des amis, des parents, on ne sait pas. Mais des gens qui étaient suffisamment motivés pour aller faire un trou dans un toit d'une maison, même si le toit était probablement plat, c'était quand même... j'ai un petit peu coupé la vidéo pour que ça soit pas trop long. Il y a toute une part où il dit, mais qu'est-ce qu'il va dire le propriétaire, hein? Jésus constate la foi de ces hommes et il guérit le paralysé en réponse à la foi des autres. Ça peut paraître un peu curieux. Pourtant, on peut penser quand même que s'ils ont eu la foi, eux, pour transporter cet homme-là, c'est que cet homme-là avait aussi la foi, le leur a demandé. Jésus a déduit, si on peut dire, la foi du paralysé de ce qu'il avait été capable d'induire comme comportement chez ses amis. Seul Dieu peut pardonner les péchés. C'est ce que les hommes religieux vont dire. Mais d'abord, Jésus prononce cette phrase, « Tes péchés sont pardonnés ». On peut se poser la question, comment est-ce qu'il a ressenti ça, le paralytique? Est-ce que c'était pour ça qu'il était venu? Est-ce qu'au début, il n'a pas dû dire « Ouais, d'accord, c'est bien, mais j'aurais bien aimé des jambes en plus ». Enfin, je ne sais pas ce qu'il a dans son cœur, je fais des suppositions. En tout cas, pour les gens, les religieux qui étaient là, scandale, blasphème. Comment un homme peut pardonner les péchés? Seul Dieu le peut. Et dans leur incrédulité, ils disent une chose très très vraie. Seul Dieu peut pardonner les péchés. Pourquoi? Parce que le péché, c'est une offense contre Dieu. Vous savez, cette histoire déplorable qui est arrivée à David, quand il a guigné, hein, c'est un mot qu'ils emploient dans le petit film, guigné, hein, je ne sais pas, ça doit être des Suisses qui l'ont fait, quand il a vu une femme qui lui a plu et qu'il a kidnappé la femme et fait tuer son mari. Et après, il se rend compte de son péché. Il a écrit le psaume 51, et dans ce psaume 51, il dit cette phrase étonnante, « J'ai péché contre toi seul. » On peut dire, attends, mais il a péché aussi contre d'autres personnes. Contre la femme, contre son mari, contre des gens qu'il a rendus coupables de son crime. Mais il dit, « J'ai péché contre toi seul. » Parce que le péché, c'est vraiment une offense contre Dieu. On trouve ça au psaume 51, verset 4. Donc le péché, c'est vraiment une offense contre Dieu. Donc seul Dieu, c'est vrai, peut pardonner les péchés. Donc Jésus va affirmer sa divinité, je peux pardonner les péchés parce que je suis Dieu. C'est le sens de ce qui va arriver. Et il donne une preuve supplémentaire, puisqu'on avait vu qu'il y avait déjà eu des guérisons. Il donne une preuve supplémentaire qu'il peut pardonner les péchés parce qu'il est Dieu et il manifeste sa divinité par la guérison. À notre époque, il y a aussi des personnes qui ne croient pas que Jésus est Dieu, en tout cas pleinement Dieu, notamment les témoins de Jéhovah. Et ces personnes, elles s'appuient sur la Bible. Mais en fait, elles raisonnent comme les pharisiens de ce temps-là. Et Jésus montre qu'il ne blasphème pas quand il dit « Je peux pardonner les péchés » parce que vraiment, il est Dieu. Donc le miracle va prouver, signifier que Jésus est Dieu. On peut se demander, mais pourquoi est-ce que Jésus l'a fait languir, ce pauvre homme? Pourquoi est-ce qu'il lui dit, d'abord tes péchés sont pardonnés? Mais je pense que Jésus va utiliser la guérison de cet homme comme preuve. Il va utiliser ce miracle pour prouver aux yeux des religieux, mais aux yeux aussi de la foule qui étant là, qu'il est bien celui qu'il prétend être. Et on voit que c'est le projet de Dieu C'est ce que Dieu a voulu. On trouve ça dans Actes chapitre 2, au verset 22. Actes chapitre 2, verset 22, où il est question de Jésus de Nazareth, cet homme approuvé par Dieu devant vous par les miracles, les prodiges et les signes que Dieu a fait par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme approuvé par Dieu devant vous par les miracles, les prodiges, les signes que Dieu a fait par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes tous témoins, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. C'est le discours de Pierre après la Pentecôte. Le miracle était donc prévu dans le plan de Dieu pour prouver que Jésus était bien celui qu'il disait, qu'il était bien le Fils de Dieu, qu'il était bien Seigneur et Christ, Seigneur et Messie. Le miracle est donc une preuve de ce qu'il est. Alors on peut se poser la question, qui a tiré les bonnes conclusions? Le paralytique, certainement, il s'est levé et il est rentré chez lui, avec sa civière, et il célébrait la gloire de Dieu. La foule, on ne sait pas. En tout cas, les religieux, on ne sait pas si dans leur tête, certains ou dans leur cœur, certains ont dit, ben oui, quand même, là, cet homme est vraiment Dieu, puisqu'il nous le prouve. En tout cas, on ne le sait pas. Et nous sommes aussi témoins de la joie de la foule qui célèbre la gloire de Dieu. Mais quelle conclusion elle en tire? Certains disent il se passe des choses extraordinaires aujourd'hui. On a l'impression qu'elles n'ont quand même pas tiré toutes les conclusions de l'événement. Ah, il se passe des choses extraordinaires. Oui, mais quand même, on a Dieu en face de nous là. C'était ça qu'il fallait conclure. Mais c'était peut-être trop difficile à conclure. On voit donc que même dans des circonstances aussi extraordinaires, même bien préparés par tout ce qu'avait dit et fait Jésus, les hommes ont vraiment de la peine à aller jusqu'au bout de leurs conclusions. Ils ne se prosternent pas devant celui devant qui ils auraient dû se prosterner en disant « Ah ben oui, tu es Dieu !» et se prosterner devant lui. C'est aussi ce mystère qu'on a et que Jésus nous dévoile un petit peu quand il dit que personne ne peut venir à lui si le Père ne l'attire. Et il a pu aussi donner toutes les preuves, tous les signes, tous les miracles, seuls ceux qui étaient vraiment désignés par Dieu ont pu se tourner vers lui. Donc, de la joie, après cet épisode du paralytique, de la joie dans la maison, mais une certaine amertume qui surnage quand on lit ce passage, on discerne ce qui va se passer dans toute la vie de Jésus. Oui, cet homme va faire des choses extraordinaires. Il va guérir, il va nourrir des foules, il va donner un enseignement extraordinaire. Et pourtant, 3 ans plus tard, le verdict de la foule sera « Nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. Crucifie-le. » Et c'est encore le choix de millions de personnes aujourd'hui. En voyant, en écoutant, en lisant tout ce que Jésus a fait, refuser de se prosterner devant lui, refuser de le reconnaître comme Dieu, refuser de dire oui, cet homme peut changer ma vie, cet homme peut pardonner mes péchés, cet homme peut me donner un avenir extraordinaire. Voilà ce que dit le texte. J'aimerais aussi maintenant essayer de me l'approprier un peu. Qu'est-ce qu'il me dit à moi, ce texte? Alors peut-être à vous, il vous dira d'autres choses. Je partage avec vous ce qu'il m'a dit à moi. La première chose, question que je me suis posée, c'est de quoi est-ce que je suis paralysé? Est-ce que nous ne sommes pas tous paralysés de quelque chose? Une maladie physique qui nous ronge? une souffrance passée, une rancœur qui persiste, une jalousie qui dure, un sentiment d'injustice qui s'installe, un espoir secret, une difficulté à pardonner, un cœur sans compassion, un péché qui nous ronge, différentes choses. Voilà nos paralysies à nous. Et elles méritent bien d'être guéries. La deuxième question que je me suis posée, est-ce que j'ai suffisamment la foi pour obtenir la guérison de cette paralysie-là? Une fois que j'ai mis le doigt dessus, une fois que je me suis rendu compte, comment est-ce que je peux obtenir la guérison? Est-ce que je peux vraiment aller devant le Seigneur? Ou est-ce que je n'ai pas besoin parfois d'amis pour me porter devant le Seigneur? Est-ce que j'ai envie de changer? Et si oui, est-ce que je vais me donner les moyens de changer? Si je n'ai pas le courage ou la force, puis-je en parler à des amis pour qu'ils m'aident à aller vers Jésus? Alors, que peuvent faire les amis? Alors, il y a différentes sortes d'amis. Je les ai classés en 4 catégories. Il y a les bons, enfin, il y a les normaux. Je vous expliquerai après ce que c'est qu'un ami normal. Il y a les mauvais, il y a les bons, il y a les excellents. Alors, les amis normaux, c'est ceux qui donnent de bons conseils. Ah, tu sais, tu devrais arrêter de fumer. Mais enfin, tu devrais sortir, voir du monde, pas rester comme ça, confiné chez toi. Ah, ça peut être utile, mais ça ne suffit pas. Et ça, on est tous capables d'être des amis comme ça. Il y a les mauvais amis. C'est ceux de Job. Enfin, ceux de Job, quand ils ont commencé à parler. Job, il a eu des amis excellents pendant 7 jours, ils n'ont rien dit. Ils étaient là. Et ils n'ont rien dit. Mais quand ils ont commencé à parler, c'était la catastrophe. Parce que leur discours, c'est « Je vais t'expliquer pourquoi Dieu t'envoie ce malheur. » Tu as dû lui déplaire. Au fond, c'est ta faute. Et vas-y que je t'enfonce. Sous prétexte de t'épauler. Ça, ce sont les mauvais amis. Et peut-être que quelquefois, on est aussi un peu des mauvais amis. Et puis, il y a les bons amis. Les bons amis, c'est les amis de Job, première manière, les 7 premiers jours. Je peux te donner un peu de mon temps, un peu de ma bienveillance, un peu de mon sourire. Peut-être je ne peux pas te donner plus, mais ça, je peux te le donner. Un peu de mon affection. Je ne peux pas te dire pourquoi tu es dans la peine. Je peux vous dire que professionnellement, c'est un problème que je rencontre quotidiennement. Pourquoi les gens ont telle maladie? Je ne peux pas. Tout ce que je peux faire, c'est leur donner un petit peu de mon temps, écouter leur souffrance. Et puis, il y a ce que font les excellents amis. Viens, tu n'as peut-être pas la force, mais on va en parler ensemble au Seigneur. Je vais te porter jusque devant le Seigneur. On va le supplier ensemble de t'écouter, de te pardonner, de te guérir. On va attendre sa réponse. Alors, que va faire le Seigneur? Psaume 34, verset 17 dit « Quand le juste crie, l'Éternel entend, et il les arrache à toute leur détresse. » Mais il ne fait pas toujours comme ce que nous lui avons demandé. Le paralytique, au début, il est arrivé, il voulait des jambes. Et il s'entend dire « Tes péchés sont pardonnés. » Et notre premier problème, même si ce n'est pas la question qui nous préoccupe d'abord, est-ce que c'est vraiment pas le problème du péché? Et Jésus a le pouvoir de pardonner nos péchés, puisqu'il en a payé le prix à notre place. Et ensuite, il va décider, lui, ce qu'il va faire pour nous, parce que c'est lui le maître, c'est lui le Seigneur. Est-ce qu'il va guérir notre maladie et ainsi montrer sa gloire et sa puissance? Oui, où est-ce qu'il va nous transformer, nous, pour nous rendre capables de porter la chose? Est-ce qu'il va nous façonner pour utiliser cette épreuve pour faire de nous des hommes et des femmes qui lui ressemblent davantage? Il peut déjà changer notre façon de percevoir les choses. Un jour, un homme témoignait en disant « Le Seigneur a fait au-delà de ce que je lui demandais. » « Ah bon ?» lui dit son ami, « Mais tu lui demandais quoi ?»« Ah, je lui demandais une Ferrari. » « Ah bon ? Et il a fait au-delà de ce que tu lui demandais ?»« Oui, oui, il m'a donné d'être heureux sans Ferrari. Comme ça, je suis heureux tout le temps. Et j'ai pas peur qu'on me la vole. » C'était une boutade, mais quand même. Notre problème, notre problème de santé, par exemple, il peut nous aider à le porter, mais vouloir que nous continuions à le porter. C'est ce qu'il a dit à Paul. Vous vous souvenez, Paul, on trouve ça dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 10, 12, et au verset 8, Paul raconte qu'il a un problème. Alors, il emploie un mot un peu énigmatique, une écharde, hein, comme s'il avait un bout de bois enfoncé quelque part. Par comparaison avec d'autres textes, on pense probablement à une maladie des yeux. Mais c'est une supposition. Et il écrit, au sujet de cette épreuve, « J'ai prié par trois fois le Seigneur de l'éloigner de moi. » On comprend. Imaginons Paul, serviteur du Seigneur, lui dire, « Mais enfin Seigneur, je pourrais bien mieux te servir si j'étais en bonne santé. » C'est logique. Donc par trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il m'a répondu, « Ma grâce te suffit. » C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Quand on lit les épîtres de Paul, on se rend compte que Paul, il y a des différents moments où il était peut-être pas très loin d'avoir un peu d'orgueil sur ce qu'il faisait. Et il avait des raisons d'être fier de ce qui se passait. Les églises qui poussaient comme des champignons partout où il passait, il aurait pu dire « C'est moi le super Paul. » Est-ce que c'est pour ça que Dieu lui envoie un contrepoison, si on peut dire? Je ne sais pas. Alors, est-ce que je vais tirer les bonnes conclusions de la réponse du Seigneur? Quelle que soit sa réponse, soyons certains que Jésus est le Maître Tout-Puissant, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, et que sa réponse à notre épreuve va nous enseigner quelque chose, va nous modifier d'une certaine façon, va nous faire grandir d'une certaine façon. Et lorsque sa puissance s'accomplit, n'oublions pas de proclamer sa gloire. Je vous propose de conclure. En trois points. Si je me sens paralysé, je vais voir le Seigneur. Parfois, j'ai besoin de vrais amis pour me porter devant lui. Si ma foi est faible, leur foi viendra à mon secours. Je dois donc choisir de bons amis, et c'est ça le rôle de l'Église. C'est d'être un réservoir de bons amis. Mais sachons aussi être de bons amis. Si je suis choisi comme ami, j'ai le choix entre être un mauvais ami, c'est ta faute si tu souffres, ou un ami sans consistance, yaka, ou un bon ami, je peux te donner un peu de mon temps, un peu de mon affection, ou un excellent ami, je vais t'aider à rencontrer le Seigneur pour lui exposer ton problème. Et proclamons la gloire du Seigneur. Tout ce que le Seigneur accomplit dans nos vies, toutes les délivrances qu'il peut nous apporter, tous les éclairages qu'il peut nous susciter dans nos recoins sombres, tout cela proclame sa gloire, sa puissance. Oui, il est Dieu. Et j'aimerais terminer en lisant ce verset de l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 3 et au verset 20, qui dit ceci, « À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons, à lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen.